franceinter.fr.
Triste anniversaire pour Haïti, mais glorieux souvenir, le préfigurateur de l'État noir.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Toussaint Louverture.
Bonjour Louverture. Je suis venu vous dire ceci. La République des couleurs est révolue. Ou du moins, elle n'en compte plus que trois. Le bleu, le blanc, le rouge. Les couleurs de la liberté.
Ne me prenez pas pour un enfant. Seuls les Noirs peuvent libérer les Noirs.
En 1793, Toussaint Louverture a près de 50 ans. Il a jusque-là mené dans la partie française de Saint-Domingue une longue vie cachée d'esclaves, puis de libres, d'affranchis. Quand l'émeute, dit Aimé Césaire, eut gagné chance de se transformer en insurrection, il la rejoignit. Dès qu'il s'y fut engagé, il n'eut de cesse qu'elle ne s'élargit en révolution. De leur côté, les révolutionnaires de Paris, qui finirent par abolir l'esclavage en 1794, voulaient garder la souveraineté française sur une île stratégique. Ils envoyèrent dans les Caraïbes des députés en rang serré, des militaires par milliers et milliers, en vain. En 1801, Toussaint préfigurait le premier État noir. Le premier consul vint, qui crut pouvoir inverser le cours des choses, tenta de rétablir l'esclavage, déporta Toussaint en Franche-Comté. Cet exil n'empêcha pas les Noirs de venir à bout des troupes françaises. Et aujourd'hui encore, la mort de Toussaint en 1803, dans le glacial fort de Joux, nourrit une mémoire de légende. Notre invité aujourd'hui, Marcel Dorigny, bonjour.
Bonjour.
Historien bien connu de la Révolution et de l'abolition de l'esclavage. Vous aimez citer, commençons par décrire la Grande Île et son partage. Jacques Chirac, une autorité, président de la République en 2000, il dit « Mais Haïti n'a pas été à proprement parler une colonie française ».
Eh bien oui, cette formule tout à fait surprenante a été prononcée lors d'une tournée présidentielle aux Antilles françaises, à la suite d'une question d'un journaliste dominicain. Alors comment interpréter cette réponse, hein, que Haïti n'a pas été une colonie française, certes, mais Saint-Domingue l'a été. Et Haïti, c'est Saint-Domingue.
Alors attendez, voilà, Saint-Domingue est partagé à l'époque, voilà, qui nous intéresse.
Saint-Domingue a été partagé en deux parties inégales à la fin du XVIIe siècle, donc en 1697, officiellement au traité de Ryswick. En réalité, la présence française à Saint-Domingue, dans cette partie qui va devenir partie française de Saint-Domingue, est bien antérieure. Il faut rappeler que l'Espagne n'avait jamais accordé une très grande importance à la Grande Île, pas plus d'ailleurs qu'à Cuba. Ce qui intéressait l'Espagne, c'était le continent, c'était le Pérou, les mines d'argent, les mines d'or, etc. Le Potosi. Les Antilles, pour l'Espagne, étaient les relais pour les bateaux, pour l'approvisionner en produits frais, en eau, en viande, en légumes, bien entendu, en fruits, pour le scorbut, etc. Les Français, les flibustiers, tous ces gens un petit peu en marge de la société maritime, on va dire, se sont installés progressivement, et puis on est passé d'une occupation française, d'une présence française, disons, tout à fait illégale, enfin spontanée, sauvage, à un état de droit, puisque l'Espagne, au traité de Ryswick, a cédé l'ouest de l'île, en gros un tiers de l'île, à la France, avec une frontière d'ailleurs qui a été très très longue à se fixer.
La France qui en fait une place commerciale, voilà, sucre, alors café, cacao, oui, une base navale, un état de droit, ça c'est vous qui le dites.
Droit international.
J'ai cité le président de la République de l'an 2000. Maintenant, le magazine très officiel de la Radio Nationale de 1954.
Voici Union Française, le magazine de la France d'outre-mer, présenté par Pierre Ichac et René Potier.
On est extrêmement surpris d'y voir là une race extrêmement belle et très fière de ses origines. Parce que, après la découverte de Haïti par Christophe Colomb, la première escale des bateaux négriers était justement Haïti. C'était donc là qu'on vendait les plus beaux esclaves. Donc, à la base, il y a eu de très beaux types d'hommes et de femmes.
10 000 portugaises, 10 000 livres portugaises. Vous pouvez me croire, c'est donné pour un lot pareil. En parfait état. C'est la succession Breda, honorable planteur installé à Saint-Domingue depuis 39 ans, arraché à notre affection subitement et sans descendance. Monsieur Breda était connu pour être très soigneux de ses esclaves. Allons, allons, messieurs, 10 000 petites livres portugaises. J'irai jusqu'à 9 500, mais pas un sou de moins.
En revanche, je rachète le gamin.
À 500 livres portugaises, les prix viennent d'augmenter.
Comment tu t'appelles ?
Toussaint. Toussaint de Breda.
Et oui, avant de s'appeler l'ouverture, il était esclave des Breda. Alors, les esclaves qui sont à classer en plusieurs catégories, parce qu'il y en a qui travaillaient dans les champs, et puis d'autres qui faisaient des tâches d'artisans.
Et des tâches domestiques.
Ouais.
Oui.
Et puis, les mulâtres. Parlons un peu de,
alors, le terme
des catégories.
Oui, oui, oui. Alors, le terme mulâtre n'est pas tout à fait le terme adapté. C'est un terme, on va dire, racial, ethnique, qui désigne le croisement noir-blanc. En termes juridiques, les colonies étaient réparties en trois catégories. Les blancs, que l'on ne qualifiait jamais de blancs libres, puisqu'ils étaient libres par définition. Les esclaves, qui étaient toujours noirs. Et puis, entre ces deux catégories très bien identifiées et très inégales démographiquement, il y avait une catégorie intermédiaire dont la définition juridique est très claire, sont les libres de couleur. Libres de couleur veut dire que ce sont des gens qui ont été affranchis ou qui sont nés libres, mais qui ont un de leurs ascendants qui a été esclave à un moment ou à un autre, donc qui sont de couleur. De couleurs qui peuvent être très très claires, hein, puisque parfois les nuances sont très subtiles. Mais l'origine, en quelque sorte, africaine ne permet pas d'acquérir la plénitude des droits qui sont ceux des blancs et des blancs seuls.
Le sang des blancs et le sang des esclaves se livraient combat sur mon visage. C'est une citation de Lamartine qui s'intéressait beaucoup à Toussaint Louverture. On y reviendra. Mais on va décrire rapidement la vie cachée de Toussaint. C'est pas très intéressant, disait Césaire, d'explorer sa psychologie. C'est important de savoir quand même qu'en 1776, à l'âge de 33 ans, à l'âge du Christ, il est affranchi.
Voilà, ça c'est un moment absolument essentiel, parce que Toussaint Louverture, contrairement à ce que colporte parfois une légende très mal informée, n'est pas esclave. Au moment où il entre dans l'action politique sous la Révolution,
il n'est plus esclave.
Il n'est plus esclave depuis longtemps. Il fait partie justement de cette catégorie des libres de couleur, et lui, il est dans cette catégorie de couleurs, il y a deux catégories. Il y a les noirs libres, ceux qui ont été esclaves et qui ont été affranchis. Toussaint Louverture en est l'archétype, le noir libre. Et puis il y a les sans-mêlés, qui sont issus du métissage noir-blanc, avec toute la complexité du métissage. Toussaint Louverture est un noir libre qui a connu, en quelques années, une relative ascension sociale.
Il loue une place, il devient lui-même une sorte de petit colon, voilà, avec des esclaves.
Un petit colon avec des esclaves. Il a des esclaves, une douzaine d'esclaves. Il a fait un mariage qui lui permet d'acquérir une propriété. Donc tout cela fait que ce n'est pas un esclave en révolte. Hein. Il faut bien oublier ça. D'ailleurs, il n'a jamais été esclave de plantation de la terre. Il a été un esclave domestique. Il a été cocher, guérisseur, etc.
Au motif qu'il aura pendant l'insurrection, qu'il conduira une orthographe incertaine, une écriture maladroite, qu'il mélangera le français, le créole et parfois des maximes latines. On se demandera chez ses adversaires s'il l'était illettré, mais non.
Ce garçon qui est venu me chercher, il m'a paru intelligent. Mmh. Je lui ai prêté un ouvrage de la Bérénal, un disciple de Diderot.
Non mais cousin, redescendez sur terre. Toussaint est un esclave, il ne sait pas lire.
Eh bien, il mériterait qu'on lui apprenne.
À quoi bon ? C'est mon meilleur cocher, il soigne mes animaux malades, c'est tout ce que je lui demande. Il est jésuite.
Paul, le cousin du baron de Liberta, est resté plusieurs années dans l'île. Il m'a appris à lire, à écrire. Il ne manque au nègre qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et à la révolte. L'histoire des deux scènes de la Bérénal.
France 2 diffuse très prochainement un film consacré à Toussaint Louverture, signé Philippe Niang, avec dans le rôle principal Jimmy Jean-Louis. Et nous remercions France 2 de nous avoir permis d'utiliser un certain nombre d'extraits. Celui-ci essaye d'indiquer le rapport qu'a pu avoir Toussaint Louverture avec le mouvement abolitionniste, si bien symbolisé par l'abbé Rénal, et qui progresse pendant la vie cachée de Toussaint.
Oui, alors c'est fait partie des légendes ou des mythes autour de Toussaint Louverture. Une chose est certaine, Toussaint Louverture a été alphabétisé avant la Révolution. Il est un de ces affranchis qui ont appris à lire et à écrire. Alors, la légende va dire qu'il a appris à lire et à écrire à partir de Rénal, qu'on lui représentait un livre. Bon, rien ne permet de le confirmer, de l'attester. Peu importe. Hein. Rénal, avec son grand livre, son histoire des deux Indes en 10 volumes, dont des chapitres absolument fondamentaux, les plus radicaux, ont été écrits par Diderot, a beaucoup circulé dans toutes les sociétés coloniales. On en a la preuve par les inventaires de bibliothèques, par les commandes que passent les colons. Dans une malle qui part pour Saint-Domingue, il y a toujours un Rénal quelque part. Hein. C'est vraiment là. Même si Rénal est parfois très dur envers les colons, c'est devenu une sorte de bible de la société coloniale. On lit Rénal et on commente et on discute parfois violemment, mais on lit Rénal.
Et les colons qui ont lu Rénal, comment réagissent-ils à la Révolution française? Aimé Césaire parle de fronde des grands blancs. Il l'imagine peut-être un peu comme une révolution à l'américaine qui leur permettrait de construire leur propre indépendance à leur bénéfice, avec d'ailleurs une assemblée coloniale qu'ils créent de suite.
Voilà, voilà. Le début de la révolution de Saint-Domingue, c'est la révolution des blancs. Quand la révolution commence en France, en 88-89, les colons immédiatement s'enfonce dans la brèche, en quelque sorte, de l'édifice d'Ancien Régime, et espère obtenir rapidement une très large autonomie interne, avec en particulier une assemblée coloniale qui serait quasi souveraine sur le régime intérieur des colonies. C'est la fameuse assemblée de Saint-Marc qui va être déclarée par l'assemblée constituante comme rebelle, comme factieuse, et qui sera dissoute par la force de la loi, à défaut de la force des armes, et les colons les plus radicaux de l'assemblée de Saint-Marc seront déportés en France, hein, sur le fameux navire, le Léopard, on les a sur les Léopardins. Ceci dit, en France, ils n'ont pas été inquiétés, mais ils ont été arrachés en quelque sorte à la société locale, parce que dangereux, parce que autonomistes. Autonomistes à la manière des colons anglais d'Amérique du Nord qui ont proclamé l'indépendance des États-Unis.
Les Noirs, pendant
pour
ce temps-là,
maîtres chez eux.
Ils imaginent que la Révolution française, c'est la libération par rapport aux maîtres. C'est comme ça que commence en 91 une première insurrection à laquelle va se greffer Toussaint Louverture. Je parlais de Lamartine et de son intérêt pour Toussaint Louverture en 1850 et jouer une pièce de Lamartine. Elle avait été refusée par la Comédie Française parce que le comité de lecture ne voulait pas que Rachel, qui devait jouer le rôle de la nièce du héros, fût grimée en négresse.
Et nous voici dans le cabinet de Toussaint Louverture, au haut de sa tour, son observatoire. Il marche de long en large.
Cette heure du destin si longtemps attendue, la voilà donc. En vain je l'avais suspendue. En vain je suppliais Dieu de la retenir. Pour décider de nous, elle devait venir. Entre la race blanche et la famille noire, il fallait le combat puisqu'il faut la victoire. Dans un pauvre vieux noir, cependant, quelle audace de prendre seul en main la cause de sa race, de se dire, selon que j'aurai résolu, il en sera de tous ce que j'aurai voulu.
En fait, l'ouverture, qui a en effet près de 50 ans, n'a pas dans la tête un message, ni en vers, ni en prose. Il va jouer un jeu de bascule et puis profiter des opportunités. Jeu de bascule avec les Espagnols qui sont là, sur l'autre partie
côté de la frontière,
tout près. Jeu de bascule avec les Blancs, les Mulâtres, ses frères noirs.
Oui, alors Toussaint Louverture n'est pas au départ de l'insurrection de 1791, donc de l'insurrection dite du Bois-Caïman de la nuit du 22 au 23 août 91, n'est pas un des meneurs de la révolte. On a même soutenu longtemps qu'il n'était pas là au départ. Alors en fait, des découvertes depuis quelques années ont montré qu'il était présent en second, en quelque sorte, dans le sillage de Boukman, dans le sillage de Biassou et de Jean-François, dont il était le collaborateur le plus près. Mais il est là, il est derrière. Fin août, peut-être pas, mais en octobre, on le voit déjà à ce moment-là. Alors, ensuite, il va passer du côté espagnol.
Du côté espagnol.
Du côté espagnol, où il va se battre. Et c'est du côté espagnol qu'il va acquérir ce surnom de l'ouverture. Alors, ça peut paraître surprenant, alors qu'il y a la Révolution en France, de voir qu'il va passer du côté de l'Espagne. Alors, il faut rappeler tout de même, hein, pour bien cadrer les choses, hein, que la Révolution constituante, au moment donc, de l'insurrection des esclaves, c'est encore l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, en matière de politique coloniale, a donné entière satisfaction aux colons. Elle leur a accordé ce que l'Ancien Régime n'avait jamais voulu leur donner, c'est-à-dire une très large autonomie. Le décret du 8 mars 1790 crée des assemblées coloniales entre les mains des seuls colons blancs et des grands blancs. Et ces assemblées coloniales ont des pouvoirs très étendus sur l'intérieur de la colonie, et notamment ils sont les seuls à pouvoir proposer de façon libre et spontanée, c'est le texte du décret, libre et spontanée, une modification du statut des personnes. Autrement dit, l'Assemblée nationale à Paris s'est dessaisie de la question de l'esclavage et des droits des libres de couleur.
Alors à partir de quand Toussaint Louverture va-t-il trouver davantage des apostrophes à combattre aux côtés de la Révolution, à abandonner les Espagnols? Parce que le jeu de bascule, il se fait avec les envoyés de Paris. Alors il y a des rafales de parlementaires, il y a eu 3 délégations, une sous la législative en 91, une autre en 92, il y en aura une troisième sous le directoire. Et puis Paris envoie aussi des troupes.
Voilà. Alors le moment décisif, c'est évidemment, en réponse à l'insurrection des esclaves, c'est l'envoi par l'Assemblée législative de la deuxième commission civile, comme on dit, celle qui est présidée, enfin pas présidée, mais qui est animée principalement par Santonax et Étienne Polverel, qui vont être les deux acteurs principaux de l'abolition de l'esclavage. Et ces commissaires civils, qui arrivent en septembre 92, donc à Saint-Domingue, n'ont pas le pouvoir d'abolir l'esclavage. Ils ont le pouvoir de mettre en application le décret du 4 avril qui donne l'égalité des droits aux libres de couleur.
Mais Santonax va quand même prendre l'initiative.
Voilà, alors Santonax arrive en septembre 92, il est là pour appliquer le décret du 4 avril qui donne l'égalité des droits aux libres de couleur. Autrement dit, il est là pour fortifier, ou plutôt pour constituer le front des propriétaires d'esclaves. Car les libres de couleur possèdent un quart des esclaves. Et cette stratégie, donc, d'unir les propriétaires d'esclaves pour rétablir l'ordre dans la colonie face à une insurrection qui se développe, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on arrive au mois d'août de l'année suivante, et la révolte, le front des libres de couleur et des blancs ne s'est pas formé, parce que précédemment, l'année d'avant, il y a eu une révolte des libres de couleur qui a été massacrée, qui a été écrasée dans un bain de sang. Donc le fossé, en quelque sorte, est infranchissable entre les deux catégories de libres, les deux catégories de maîtres. Et en août 93, La guerre avec l'Angleterre fait rage dans la Caraïbe, avec l'Espagne de l'autre côté de la frontière, et les esclaves sont en train de gagner en quelque sorte du territoire. Et Santonax est au pied du mur. Il avait répété.
Et il abolit l'esclavage de son propre chef avant que Paris ne le fasse.
Il abolit l'esclavage le 29 août sans en avoir le pouvoir.
Mais ce qu'on va voir dans les années qui vont suivre, il y aura une autre délégation du directoire, avec toujours Santonax envoyé en 96, c'est que les délégations de Paris sont obligées de prendre conscience de la faiblesse de leurs moyens et que Toussaint Louverture prend de plus en plus conscience, lui, de la force des siens, au point d'expulser au bout d'un moment les derniers représentants et parlementaires français et militaires français.
Alors, Toussaint Louverture ne rentre dans la colonie qu'en mai 94, c'est-à-dire après l'arrivée à Saint-Domingue de l'annonce du décret du 16 Pluviôse à Paris qui abolit l'esclavage.
Et puis, vous ne les avez pas parlé de l'expulsion finale des Français par ses soins?
Non, mais c'est dans un troisième temps. Toussaint Louverture va connaître à ce moment-là une ascension extrêmement rapide, puisqu'il va être général de brigade, général en chef, puis gouverneur de la colonie.
Il est nommé par les Français
à tous ses titres. Il est général de la République et il prend en quelque sorte progressivement les leviers politiques du pouvoir. Il fait partir Santonax en le faisant élire député au Conseil des 500 du directoire. Et puis, il fait expulser le dernier gouverneur, qui est le général Hédouville, qui est purement et simplement expulsé à la demande de Toussaint Louverture, et personne ne peut s'y opposer.
On va entendre, avant de raconter comment se préfigure le premier État noir, Toto Bissainte, qui dit aujourd'hui « Haïti perd son sang, ses enfants sont morts, les autres sont dans la diaspora ». L'île cherche à combler la mer avec les pierres, et pourtant, au temps de Toussaint Louverture, elle fut Maman Liberté.
Deyo, ma prele deyo, Haïti, woy. Deyo, moi chante deyo, Haïti chéri, ma petite ou mourir. Mais l'autre yo toutou ni sa capote de la pour mouroi. De yo, moi relè de yo, Haïti, woy. D'Haïti m'relè ou, moi relè pour relèm. Faut pour relè tout sang ou, faut que nous tout nous semblé, faut nous tout semblé pour qu'on vit. La mrelle, ouoi, mrelle, ouoi.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Marcel Dorigny, anniversaire du tremblement de terre à Haïti, et puis souvenir glorieux de Toussaint Louverture qui restait seul. 1798, bridant les mulâtres, manipulant quelques blancs qui sont ses alliés, et à la tête de ses frères noirs, crée ce qu'on appelle par commodité aujourd'hui une république noire. C'est un peu exagéré, parce que ça ne fonctionne pas comme une république et ça n'est pas complètement indépendant.
Non, alors Toussaint Louverture, entre 1998 et 1801, va créer... sur la partie française de Saint-Domingue, qui reste française, ce qu'on va appeler un quasi-État. C'est-à-dire qu'il va reconstruire un État qui était passablement délabré par la guerre civile, par la guerre étrangère, etc. Il a libéré le territoire, presque entièrement, de la présence anglaise. Et il va créer un quasi-État dont il est le maître.
Avec une cour, avec des
courtisans, etc. Avec de grands domaines hein, qui vont être distribués à lui-même et à ses subordonnés. Et il va se donner les moyens d'un pouvoir d'un État. C'est-à-dire qu'il va se donner d'abord une constitution.
1801.
Alors, il faut rappeler que la constitution du consulat de l'an 8 avait prévu dans son article 97 que les colonies devraient être régies par des lois particulières. Ça voulait dire que de France, on se réservait le droit de rétablir l'esclavage dans les colonies. La constitution de l'an 3 avait uniformisé la législation, la loi était la même partout. Là, on prévoit des lois particulières. Toussaint Louverture s'est emparé de cet article pour dire, loi particulière, eh bien, nous allons les faire nous-mêmes. Et il a rédigé cette constitution, enfin, il a réuni un comité de constitution qui a rédigé un projet qui a été promulgué donc en juillet 1801. Et il l'envoie à Bonaparte.
Attendez, avant de parler de Bonaparte, continuons à décrire, oui. Parce que Bonaparte va arriver et tout casser, Marcel Dorigny, continuons de décrire cet État noir préfiguré. Vous avez parlé des domaines agricoles. Il est partisan de revenir à l'agriculture, voire à l'agriculture de plantation comme base de l'économie.
Voilà, de revenir, en fait, elle n'a jamais cessé d'exister. Elle est simplement en crise à cause de la guerre et la révolution. Elle est déstructurée. Et Toussaint Louverture définit très clairement Saint-Domingue comme étant un État ou une république agricole. Il dit l'agriculture est la seule industrie dont nous disposons. Et donc, il n'envisage pas l'avenir du territoire autrement que par la remise en état de l'agriculture de plantation à vocation exportatrice. Autrement dit, il ne propose pas en matière économique, donc sociale, de rupture avec le modèle colonial. Et pour avoir des bras pour cultiver les plantations, la constitution de 1801 de Toussaint Louverture prévoit explicitement l'importation de nouveaux cultivateurs, sans que l'on puisse savoir qu'est-ce qu'il avait derrière la tête comme idée.
Préfigurateur, mais non précurseur. Par exemple, sa République est aussi une République, dirait Aimé Césaire, qui a employé le mot caporalisée. Il y a peut-être 40 ou 50 000 hommes, soit 10% de la population.
Voilà, l'armée est omniprésente. Alors, on n'est pas encore dans la caporalisation des campagnes, comme ça se fera un petit peu plus tard sous Jean-Pierre Boyer, où là, vraiment, ça sera le régime militaire appliqué à la paysannerie. Mais Toussaint Louverture reprend d'ailleurs ce que Constantinax avait déjà mis en place, au moins dans les textes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des règlements de culture, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de citoyens dans la colonie. Il y a les gens des villes, il y a les gens qui font des métiers, des professions libérales, etc. Et puis il y a les cultivateurs, qui sont les anciens esclaves et qui sont soumis à des règlements particuliers. Obligation de travailler sur la plantation où ils résident, autrement dit où ils étaient esclaves, et obligation de travailler et de résider, avec à la clé le délit de vagabondage, qui fait qu'on les ramène. S'ils s'en vont, on les ramène, on peut les ramener, parce que la pratique sera extrêmement difficile. Autrement dit,
ce que
Gérard Barthélémy appellera beaucoup plus tard, donc dans les années 1970, hein, le pays en dehors, c'est-à-dire cette population rurale qui ne vit pas au même rythme que ce qu'on appellera plus tard la République de Port-au-Prince, est mise en place dès cette époque-là. Et ça, le régime agraire particulier pour les anciens esclaves, appelé cultivateur, va se renforcer par la suite pour arriver au code rural de Boyer de 1826.
Vous parlez du premier consul, Bonaparte, il n'est pas content de cette constitution qu'on veut lui imposer. N'est pas nécessairement non plus satisfait de la tentative de réunification de l'île que met en place Toussaint Louverture, envahissant la zone espagnole. Et voilà comment il réagit. Film de Jean Delannoy, 1962, Martial.
Aux Antilles, une poignée d'esclaves révoltés ont incendié les plantations, massacré les blancs et instauré une sanglante tyrannie. J'envoie le général Leclerc avec 7000 hommes d'élite. grenadiers, carabiniers, hussards, artilleurs, les meilleurs soldats de l'Europe, rétablir l'ordre à Saint-Domingue.
Section, halte ! Halte !
Prenez 10 nègres et un blanc. Le blanc possède tout et ne fait rien. Les nègres font tout et n'ont rien. Voilà Saint-Domingue.
La France avant la Révolution.
Mon cher, vous n'avez pas comparé les Français et les nègres. Les Français étaient mûrs pour la liberté. Les nègres, je les connais, moi, avec eux, il n'y a que la trique.
Mes généraux, pas de politique. La liberté, les Noirs l'auront un jour. Mais en attendant, nous allons là-bas pour rétablir l'ordre. Ce sera dur.
Napoléon Bonaparte envoie Leclerc et sa sœur Pauline Bonaparte, l'épouse de Leclerc. Bon, c'est facile d'occuper les ports. Après, ça ne se passe pas si bien. Au fond, ça préfigure peut-être la guerre d'Espagne, la guérilla dans un climat éprouvant.
L'expédition Leclerc se déroule en deux temps. Dans un premier temps, Leclerc affirme, réaffirme, placarde partout, qu'il n'est pas là pour rétablir l'esclavage, que la France a donné la liberté aux Noirs, elle ne le reprendra pas. Et ça fonctionne plutôt bien. Il rallie à lui la plupart des généraux noirs, des troupes noires, et il obtient la reddition de Toussaint Louverture, qui ensuite, par une malheureuse traîtrise, sera arrêté et expédié au Fort de Joux, expédié en France, puis incarcéré au Fort de Joux, où il meurt donc en avril 1803.
Mais sa reddition, sa soumission, suivie de sa déportation, c'est le printemps 1802.
C'est le printemps 1802. Donc la première phase de l'expédition Leclerc, Leclerc arrive en fin 1801, ça se passe plutôt bien pour les troupes françaises, parce qu'il y a cette idée qu'il faut se débarrasser du tyran, qui est Toussaint Louverture, et puis ça fonctionne plutôt bien. Et puis deuxième étape, c'est le septembre-octobre 1802, où on apprend à Saint-Domingue ce qui s'est passé en Guadeloupe. C'est-à-dire que le général Richepense, après une guerre de répression extrêmement violente, 10 000 morts environ, même si le chiffre est discuté, a rétabli l'esclavage en Guadeloupe en juillet 1802. Et quand la nouvelle arrive à Saint-Domingue, Leclerc écrit à Bonaparte « L'arrêté du général Richepense en Guadeloupe est pour nous une catastrophe ». Il déclare la guerre des races.
Donc le rétablissement de l'esclavage qui est effectif dans l'île voisine de Guadeloupe, et puis aussi la déportation de Toussaint Louverture à Joux, ça a plutôt pour effet de produire une prolifération de chefs noirs révoltés. Ça aboutira à la défaite de la France et à l'indépendance effective. Voilà. Du premier État noir en 1804, Joux. En Franche-Comté, nous y sommes allés ensemble, Marcille d'Origny, c'est très froid. Il y meurt, donc vous le dites, prématurément. On l'a un peu traité comme on traitera l'empereur à Sainte-Hélène. Le seul nom qui lui soit autorisé, c'est Toussaint. On ne peut pas l'appeler général, alors qu'il était général de l'armée française.
Mais il avait été dégradé officiellement.
Oui. On le prive même de papier et d'encre. Le climat est donc extrêmement difficile. Et ce souvenir viendra comme un écho, beaucoup plus tard, à la fin des années 1810, à Sainte-Hélène.
Quand le ciel se calme un peu, à Longwood, l'empereur éprouve le besoin inattendu de parler de Saint-Domingue, et il prononce le nom de Toussaint Louverture. C'est la première fois.
J'ai eu tort. J'ai voulu soumettre l'île par la force. C'était une grande faute. Je devais me contenter de gouverner par l'intermédiaire de Toussaint. Oui, Toussaint Louverture. C'était vraiment une grande faute d'avoir voulu l'île par la force. Une grande faute.
Et c'est une grande faute, un écho de la Dessalinienne, hymne haïtien, d'exiler les grands chefs, parce que ça nourrit la puissance des mythes. Le Napoléon blanc a préparé le Napoléon noir.
D'une certaine façon, en incarcérant Toussaint Louverture dans ces conditions, dans ce château très éloigné de tout port, de toute mer, etc., il en a fait un héros, il en a fait un martyr. Et la légende de Toussaint Louverture va se greffer évidemment sur cette histoire. Mais on ne peut pas séparer Toussaint Louverture de cette histoire singulière de Saint-Domingue qu'aucune autre colonie esclave n'a connue, ni avant, ni après.
Et puis, quand on parle d'Haïti aujourd'hui, il faut faire sans cesse la comparaison avec la République dominicaine voisine, qui au total a une histoire infiniment moins glorieuse et un passé et un présent, pardon, plus prospère. Alors vous faites la comparaison Haïti-Guadeloupe ce soir, ce jeudi 12 janvier à 18h30 à Nantes. Vous êtes en partance, la Marcelle d'Origny. Merci de nous avoir rejoints pendant une demi-heure. Ce sera à l'espace Cosmopolis, rue Scribe, où commence une exposition Haïti-Guadeloupe. France 2 diffusera au mois de février le film Toussaint Louverture de Philippe Niang. L'émission a été préparée par Camille Poux-Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard et à la technique Dominique Philippot, Stéphane Poitvin sous la conduite de Marie Casanova.